Au quotidien, avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Parce que ben, c'est mieux que de sacrer quatre fois quand on essaie de déménager un meuble trop lourd. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er juillet, c'est la journée du saint déménagement. Puis il fait chaud en plus de ça, je vous dis tout de suite. Là, regarde, je vais faire la météo rapidement. Vous entendez Isabelle au téléphone, Isabelle Falardeau, un petit coucou. On te revient vite, vite, vite. Puis, on a Serge Bradet avec nous. Puis allô Mathieu qui est là aussi avec nous, bon Mathieu bon Tessier. Alors, ben voilà, c'est vraiment le coup d'une vague de chaleur pour tout l'est du pays. Puis il y a même des alertes, des avertissements, notamment pour le Québec et l'Ontario. On parle de températures qui pourraient atteindre 34, 35 degrés, mais imaginez que le ressenti, ce qu'on appelle l'humidex, c'est 45. Et misère. Puis il y a des risques d'orages violents en fin d'après-midi. Puis c'est pas mal partout pareil au pays, sauf que c'est plus frais quand même, un petit peu plus frais dans les provinces atlantiques et les provinces de l'Ouest. Je vous rappelle aussi qu'il y a 660 feux de forêt au Canada présentement. Ça commence à jouer sur la qualité de l'air. On commence à voir ça dans les provinces de l'Ouest, mais ça s'en vient ici aussi. Et l'indice UV 8 dans certains endroits, 7 à 8, là. Alors, faut mettre de la crème. Ben oui, on entendait Isabelle Falardeau. Allô, Isabelle!
Bonjour!
Ah, écoute, c'est la journée du déménagement, mais c'est aussi, bon, écoute, je fais une blague, mais c'est aussi la journée, la fête du Canada. Mm-hmm. Nous, on est en onde aujourd'hui parce qu'on a eu congé lundi, fait qu'on est là, puis on fête le Canada aussi et le déménagement avec vous autres. Puis toi, on va fêter la nourriture!
Ben oui, alors, quand on se compare, on se console, hein, donc les déménagements, ça peut être compliqué, mais vivre à Gaza, ça l'est tout autant et encore plus. Mais je vous parle de quelque chose de positif, donc une école de cuisine qui rouvre ses portes malgré les pénuries et on pourrait aussi s'entendre malgré les bombardements.
Ouais.
Mais ouais, voilà, donc c'est un petit côté positif là, de ce qui se passe dans la bande de Gaza.
Oui, on pourrait dire que nous, on est dans le Barda peut-être une couple de journées, une semaine quand on déménage. Là-bas, ça fait presque...
Après ça,
ça fait trois ans qu'ils sont dans le Barda, c'est quoi de le dire.
Puis c'est un court article, alors si jamais j'ai du temps, j'ai une petite recette cute pour vous. Là,
ah
si
ben, moi j'aime ça les recettes, ben, pas de trouble, on va en parler. Et ben oui, Serge Bradet, t'es là toi aussi aujourd'hui, on parle de quoi?
Vous allez tout savoir sur l'histoire du petit coin.
Ah, ben ouais, après avoir mangé, il faut aller au petit coin.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Parce qu'il y a une histoire à ça, voilà.
Bon, ben on va parler de petit coin. Ouais. Et puis, moi, je vais recevoir aussi Guillaume Blais, qui est directeur artistique, production du Monastère. C'est le Festival Montréal complètement cirque. Et il y a un événement, le cabaret du dernier jour. C'est une sorte de compétition entre artistes circassiens. Et Guillaume Blais, c'est intéressant, il est lui-même artiste circassien. Mm-hmm. De toute façon, je sais à le regarder. La carrure qu'il a, c'est clair que lui peut monter un piano sans aucun problème dans les déménagements. Je suis désolé, je devrais pas faire de blagues comme ça, mais ça fait du bien. Puis, ben écoute, un sujet peut-être moins rigolo, hein, surtout pas. Publication d'un livre qui s'appelle « Tracer les mots MAUX sur les violences sexuelles et physiques à l'enfance chez les hommes ». C'est un sujet dont on parle très peu et je l'avoue d'emblée, moi j'ai travaillé à ce livre-là qui va être publié très bientôt, version papier, aux éditions TNT. Puis on va aller rejoindre Julien Caillouette qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. On va parler des nouvelles du Canada. Alors aujourd'hui, 1er juillet, alors outre le Saint-Déménagement et la fête du Canada, c'est aussi l'indépendance de plusieurs pays, hein. L'indépendance de la Somalie est célébrée aujourd'hui et celle du Rwanda et du Burundi. Et puis en 1997, Hong Kong était rétrocédée à la Chine. Et 1961, elle aurait eu 65 ans aujourd'hui. Lady Di, Diana, princesse de Galles, ce serait son anniversaire aujourd'hui. Elle et moi partageons le même âge. Moi, c'est le 26 juillet que j'aurai cet âge vénérable d'avoir le transport en commun gratuit à Montréal.
Oui!
On aime ça de même. Ben c'est la fête du Canada, puis je vais vous faire jouer une chanson. Puis je ne sais pas, c'est un peu dans la nostalgie. Je vais vous parler de Raymond Braid et Martine Gauthier. Peut-être ça ne vous dit rien, je peux vous parler de Lise Brady et Martine B. C'était les deux femmes d'origine égyptienne qui sont venues au Canada dans les années 60 et qui ont fait le groupe qui s'appelle Les Scarabées. Ils ont été ensemble pendant 3 ans. Et elles ont chanté cette version française du succès brésilien « Et tu amo meu Brasil » qui a été rebaptisé « Le cœur de mon pays ». Je me dis, ben, pour fêter le Canada et aussi le Québec la semaine dernière.
La
Alors, les scarabées, elles sont mortes, hein, toutes les deux. Moi, j'ai rencontré Lise Brady en 2018-2019. Elle est morte en 2019 d'un cancer. Elle vivait en Floride. Martine B, on n'a pas eu de ses nouvelles. Elle a fait quand même une carrière solo, comme d'ailleurs Lise Brady. Mais c'est ça. Alors, ben, ça me permettait, en ce jour de fête du Canada, de parler de ce groupe qui a marqué, hein, qui a été très, très, très populaire au Québec dans ces années-là. Bon, plusieurs d'entre nous n'étions pas très, très vieux. Mathieu, t'as même pas au monde. Voilà. Alors, on y va avec les unes de la journée aujourd'hui. Bien, à Montréal, comme dans les autres régions de l'Est du Canada, l'arrivée d'une masse d'air chaud et humide pousse les directions de santé publique dans toutes les villes, hein, à lancer un appel pressant à la solidarité. Les autorités demandent aux citoyens ou citoyennes de poser des gestes concrets de bon voisinage pour protéger les personnes les plus vulnérables. En cette période de canicule, donc, les aînés, les personnes isolées ou celles souffrant de maladies chroniques sont particulièrement à risque de complications graves. L'année dernière, 678 personnes sont mortes au Québec, hein, de problèmes liés à ces vagues de chaleur. La santé publique invite donc la population à prendre régulièrement des nouvelles de ses proches et de ses voisins. Les autorités rappellent également l'importance de s'hydrater constamment et de passer quelques heures par jour dans des endroits climatisés ou ombragés. Les services municipaux demeurent vigilants alors que les îlots de chaleur urbains amplifient les risques pour la santé humaine dans plusieurs quartiers. Puis comme on sait, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la journée du déménagement au Québec. Alors, pour se protéger, on demande aux gens de faire des pauses, de s'hydrater. Et les boîtes, pas plus que 15 kg. De toute façon, ça devrait toujours être le cas, là, parce que c'est dur sur le dos plus que 15 kg. La Presse Plus aujourd'hui, en cette traditionnelle journée de déménagement, ben justement, les équipes de la Ville de Montréal, comme d'ailleurs partout au pays, partout au Québec où il y a des déménagements aujourd'hui, alors les autorités municipales, les offices municipaux d'habitation sont sur le terrain pour venir en aide aux ménages se trouvant sans toit. Les autorités gèrent actuellement une hausse des demandes d'accompagnement de la part de locataires n'ayant pas déniché de logement dans un contexte de crise persistante de l'habitation. La métropole québécoise déploie des mesures d'urgence, notamment des services de stockage de meubles et des solutions d'hébergement temporaire. Les citoyens en situation précaire sont invités à composer immédiatement le 311 pour obtenir de l'aide. Il y a 2000 ménages présentement qui sont à la recherche de logements abordables au Québec et sont accompagnés par des groupes communautaires et de soutien. Dans Le Devoir ce matin, au Venezuela, le bilan humain s'alourdit dramatiquement après le double séisme dévastateur. Les autorités font désormais état de 1943 morts, alors que les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent dans les décombres. Parce que sur le terrain, la situation humanitaire elle est critique, la nourriture et l'eau potable manquent cruellement pour les dizaines de milliers de sinistrés. Ça va pas bien. À Washington, toujours dans Le Devoir, la Cour suprême des États-Unis inflige un revers majeur à Donald Trump en choisissant de préserver le droit du sol. Le plus haut tribunal du pays a refusé de remettre en question le 14e amendement de la Constitution qui garantit la citoyenneté automatique à toute personne née sur le territoire états-unien. Le président républicain avait aboli cette mesure par décret en janvier 2025, affirmant qu'elle agissait comme un aimant pour l'immigration clandestine. Cette décision historique des juges vient consolider un pilier juridique vieux de plus d'un siècle et redessine les contours du débat électoral sur l'immigration. Et encore dans Le Devoir aussi, c'est un coup de théâtre à la Cour suprême des États-Unis qui valide cette fois l'exclusion des sportives transgenres des compétitions féminines. Le plus haut tribunal états-unien donne ainsi raison aux fédérations et aux États conservateurs qui soutenaient que la participation de ces athlètes créait une concurrence déloyale liée à des critères biologiques. Cette décision marque un tournant majeur dans le débat de société sur les droits des minorités sexuelles. Je pense que je vais prendre le temps de vous parler aussi dans la Presse Plus. Le premier ministre Mark Carney tempère les attentes là, concernant la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, la CEUM, réagissant aux commentaires de l'ambassadeur états-unien selon lesquels les négociations étaient encore loin d'aboutir. Le chef du gouvernement a affirmé qu'il était évident depuis longtemps que ce processus prendrait du temps. Il a réitéré que le Canada refuse de précipiter les choses pour signer une mauvaise entente commerciale avec l'administration Trump.
Yeah. suis en pleine rupture avec l'essentiel. C'est pas toi, c'est moi, c'est accidentel. De vie à vivre, mais je prends laquelle. Les pieds au sol ou la vue du ciel. Qu'un désert qui cherche l'océan, là où je m'évade, là où je m'échappe, l'amour qui agace comme une caresse dans les sables mouvants.
Je suis très lancé de l'ombre, fais jamais un kilomètre, pas les affines qu'on en qu'est, rase ni qu'on fait ma qu'est, on campe pas pour ses affines de rose, fais jamais un kilomètre, pas les affines qu'on en qu'est, rase ni qu'on fait ma qu'est, on campe pas pour ses difficultés. J'ai la race, il faut t'amener, je t'inifise. Je t'inifise, qu'un mec est fini qui sait. J'te pourrais que c'est pour toi, là j'crois le bipartisé. T'as pas de monde qui sait. J'veux pas que ça se termine. J'suis bien qu'à m'avoir une terre aussi tard. J'veux même pas que ça se termine. Qu'un fer qu'on fasse la même vie, fais-y bien.
Là où je m'échappe, l'amour aussi vaste qu'un désert qui cherche l'océan. Là où je m'évade, là où je m'échappe, l'amour qui agace comme une caresse dans les sables mouvants.
Je suis très lancé de l'ombre, fais jamais un kilomètre, pas les affines qu'on en qu'est, rase ni qu'on fait ma qu'est, on campe pas pour ses affines de rose. Fais jamais un kilomètre, pas les affines qu'on en qu'est, rase ni qu'on fait. Filma che non cambia, pa pose un film di love. Fai già un chilometro. Vai sa fin con lo che rasni con filma che non cambia, pa pose un film di rose. Fai già un chilometro. Vai sa fin con lo che rasni con filma che non cambia.
La chanson Paradis de El Grande Toto avec Charlotte Cardin.
Et Isabelle Falardeau, on va aller au paradis avec toi. J'ai oublié de te demander, le cœur de mon pays, tu connaissais la chanson, hein?
Oui, je connaissais bien la chanson.
Mais t'es trop jeune pour avoir connu les Scarabées. Même moi, j'étais un peu jeune à l'époque. Quand elles ont...
Ouais, c'est limite. On a un petit 5 ans en anti.
Ouais.
C'est une grande différence, mais ça fait une différence au niveau musical quand même.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors on va cesser de parler des Scarabées. On va parler de Gaza maintenant et d'une école de cuisine.
Ben oui, c'est un article que j'ai trouvé dans la presse, mais qui était rédigé par l'agence France Presse. Donc, ça date du 25 juin. Donc, dans une école de cuisine de Gaza, les élèves tentent de monter une mayonnaise, portent fièrement des vestes blanches flanquées d'un drapeau palestinien. Et rien ne laisse penser que l'établissement a déjà été détruit deux fois et qu'il manque de tout sur ses plats. Ça, c'est l'introduction. Alors, le chef s'appelle Nabil Al-Shawaf, le chef et professeur. Et il improvise ses cours en fonction de ce qu'il trouve sur le marché, évidemment, parce qu'on peut pas, je pense, à Gaza, juste décider, je vais faire telle chose, puis je vais aller chercher les ingrédients. On part de l'autre côté, mais c'est un genre de cuisine qui me plaît. C'est ce que je fais moi-même, généralement. Alors, ce jour-là, le jour de la rédaction de l'article, poivron, piment jalapeño et sauce tomate. Alors, au programme, apprendre à monter une mayonnaise, une sauce jalapeño et une sauce tabasco. Donc, sur sa veste, il y a un smiley coiffé d'une toque. C'est le logo de l'école qui a été baptisée Smile Kitchen Academy. Et elle a été ouverte en 2016. Et donc, on l'a dit en introduction, en disant, elle n'a pas connu que des jours heureux. Elle a été bombardée par Israël en 2021, puis en 2023, après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas, hein, qui avait poussé Israël à déclencher la guerre qui dure toujours aujourd'hui. Donc, elle a été fermée pendant 3 ans et cette année, elle a pu rouvrir à la faveur d'une trêve, disons-le, fragile, qui est en vigueur depuis octobre 2025. Mais évidemment, il y a une pénurie de matières premières et le coût de l'électricité aussi et du carburant est très élevé. Donc, évidemment, ça, on ne peut pas fournir les plus hauts standards en art culinaire, selon le chef Nabil Al-Shawar. Elle a été, la bande de Gaza ravagée par 2 ans de guerre, soumise depuis à des violences quotidiennes, et elle ne produit même pas assez de nourriture pour subvenir aux besoins élémentaires de sa population. Il faut savoir qu'environ 75 % des terres agricoles ont été détruites ou endommagées depuis octobre 2023. 75 % là, ça, c'est énorme. Et donc, et on s'entend que ce n'était pas à la base énorme non plus comme territoire. Ça, c'est selon l'Agence de l'ONU pour l'alimentation, la FAO. Et en plus, évidemment, je pense que tout le monde le sait, Israël contrôle tous les points d'entrée de ce minuscule territoire et refuse l'accès à un large nombre de biens sous prétexte qu'ils pourraient être détournés par le Hamas pour fabriquer des armes. Évidemment, une des étudiantes, Ouda Zamo, dit « Quand la guerre est arrivée, tout a été détruit. On a connu la famine et le déplacement. » Et c'est cette épreuve-là qui l'a convaincue, à 34 ans, de se consacrer à la cuisine pour nourrir les autres et de délaisser son ancienne activité de vente de vêtements en ligne. Elle dit « Beaucoup de recettes nous conviennent bien parce qu'elles sont très différentes des plats locaux. » Et on mentionne qu'elle a une toque posée sur son voile rose poudré. C'est une belle image, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Au moins 1,6 des 2,1 millions d'habitants du territoire palestinien, donc de Gaza, sont en insécurité alimentaire aiguë. Pas seulement insécurité alimentaire, mais insécurité alimentaire aiguë. Hein, parce qu'ici, on sait c'est quoi l'insécurité alimentaire, mais pas à un même niveau. Ça, c'est toujours selon l'ONU, et c'est principalement en raison des restrictions israéliennes sur les marchandises qui entrent à Gaza, comme on mentionnait plus tôt. Depuis donc le fragile cessez-le-feu, les camions d'aide et de marchandises entrent plus facilement, mais il y a beaucoup de produits qui restent trop chers pour la plupart des Gazaouis. Le directeur de l'école, Ahmed Abou Taha, dit qu'il y a une forte implication des étudiants malgré ces circonstances difficiles. Les étudiants ont des espoirs et des rêves qu'ils souhaitent réaliser. Parce qu'en fait, c'est ça, ils apprennent pas juste à cuisiner pour nécessairement rester sur le territoire. Après une formation d'un an, ils vont pouvoir travailler dans les établissements gazaouis, mais aussi à l'étranger, parce que l'école est liée à l'organisation World Chef, qui est basée à Paris. Une organisation qui a certifié des écoles partout dans le monde, dont la Smile Kitchen. Évidemment, pour pouvoir sortir, ils vont devoir obtenir un laissez-passer d'Israël parce qu'il y a un blocus ferme sur le petit territoire, mais il y a quand même de l'espoir. Et l'article se termine sur une parole de Ouda Zamo, l'étudiante dont on parlait plus tôt. « Ce qu'on apprend à l'école, on peut l'appliquer partout dans le monde. Si Dieu le veut, ça portera ses fruits à l'avenir. »
Wow! Ah, c'est
une belle parole d'espoir.
Je pense que tu avais autre chose dont tu voulais nous parler aujourd'hui.
Ben oui, tout à fait. C'était quand même un assez court article, mais que j'ai quand même choisi parce qu'il m'intéressait beaucoup. Mais j'en profite pour partager avec vous une recette. En fait, c'est moi, je suis abonnée à l'infolettre de It Doesn't Taste Like Chicken. C'est un site vegan canadienne.
Ah ouais?
Donc, en français, ça veut dire ça ne goûte pas le poulet. Et dans une de ces infolettes, il y avait les 9 choses dont votre salade a besoin. Donc, c'est plein de petites recettes. Il y a des recettes de vinaigrette délicieuses, mais moi, j'ai choisi les meilleurs oignons marinés maison. C'est vraiment une recette super facile parce que là, aujourd'hui, on ne veut pas allumer le four. On veut pas, idéalement, on ne veut même pas allumer le rond. Donc, si vous voulez, ça peut se faire au micro-ondes. Donc, on a tout simplement besoin d'un large oignon rouge. Évidemment, si vous ne l'avez pas, vous allez devoir sortir pour l'acheter. Mais
mes épiceries sont fermées aujourd'hui, mais en tout cas, ouais.
On peut le faire avec des oignons blancs, mais ça va être moins joli. Mm-hmm. Puis aussi, ça va peut-être prendre un peu plus de temps à mariner. Donc un large oignon rouge, une tasse de vinaigre de riz aromatisé. Ça, c'est le vinaigre de riz qu'on utilise pour faire le sushi, le riz à sushi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du vinaigre de riz régulier ou du vinaigre de cidre et ajouter 1 à 2 cuillères à table de quelque chose de sucré comme du sirop d'agave, sirop d'érable même, ou ouais, même du sucre blanc. Donc ça va remplacer le vinaigre aromatisé. Ensuite, on a 1 tasse d'eau, donc la même quantité d'eau que de vinaigre, et 1 demi-cuillerée à thé de sel. Et ensuite, on nous suggère, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 aromatiques, 6 épices en fait, qu'on nous suggère d'ajouter, mais on nous suggère d'en choisir 1 à 3 parmi les 6. Donc, soit 1/4 cuillère à thé de grains de poivre, 1/4 cuillère à thé de grains de fenouil. encore une fois, un quart de cuillère à thé de flocons de piment broyés, mm-hmm. séchés. Ou encore une feuille, je traduis à mesure, j'aurais dû le faire d'avance, une feuille de laurier, un bouquet de thym, une branche de thym, ou encore une gousse d'ail. Donc, on choisit une à trois de ces options-là, si on veut. Après ça, c'est super facile. On tasse les oignons, les tranches d'oignons, parce qu'on les a tranchées le plus mince possible. Donc, on tasse les oignons dans un pot de 500 ml ou dans plusieurs bocaux plus petits. C'est pas besoin d'être un pot là, qui peut... un pot maçon là, qu'on peut sceller. Là, ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire sceller là, pour conserver à long terme. On conserve ça au frigo de toute façon. Donc, 500 ml ou plusieurs petits bocaux. Ensuite, on ajoute les épices qu'on a choisies. Et après ça, dans un récipient qui va au micro-ondes, on mélange le vinaigre, l'eau et le sel. On fait chauffer jusqu'à ce que le mélange soit chaud et qu'il dégage un peu de vapeur. Donc, 1 à 2 minutes. Si on n'a pas de micro-ondes, évidemment, on peut faire la même chose là, dans une casserole. On attend que ça frémisse. Ensuite, on verse le mélange sur les oignons jusqu'à ce qu'ils soient entièrement immergés. On les tasse si c'est nécessaire. Et si le liquide ne recouvre pas totalement les oignons, on peut ajouter un peu d'eau juste pour que ça aille jusqu'au-dessus des oignons. S'il reste beaucoup de place, on peut ajouter des oignons, bien sûr. Ensuite, on laisse refroidir les bocaux et on les place au réfrigérateur. On nous dit que les oignons vont être... en fait, on nous dit, là parce que j'ai pas essayé de les goûter après 1 heure. Moi, je les avais fait mariner pendant toute une nuit. Mais on nous dit qu'ils sont marinés et prêts à être consommés au bout d'une heure et ils vont se conserver au réfrigérateur jusqu'à 3 semaines. Mais ça va vous prendre moins que ça pour les manger, selon mon expérience. Et en fait, une fois qu'on les a tous consommés, bon, on peut garder la saumure pour l'utiliser dans des toasts ou des sauces, pardon, ou des vinaigrettes. Ou bien sûr, on peut simplement rajouter des oignons à l'intérieur. Il faut tout simplement faire réchauffer le bouillon après l'avoir filtré. Puis on peut utiliser la même marinade plusieurs fois là, pour refaire les oignons.
Ça semble tout bon. Ben, parfait. Merci beaucoup.
Salade, oui. Votre foie gras.
Ben, merci. Ben, moi, je suis vegan, ça ne sera pas du foie gras, mais ça va être beaucoup d'autres choses. Hey, merci beaucoup, Isabelle. Merci. J'aime ça, une petite musique qui fait un peu...
C'est l'aile ou la cuisse ah! de Vladimir Cosma.
Ah, mon Dieu.
Ça tombe dans la thématique. Je vais vous faire quelques petites actualités qui touchent les personnes en situation de handicap ou en fait, qui touchent la diversité. Radio-Canada.ca, c'est un texte qui date du 30 juin, alors en résumé par ses sorties accessibles en voilier, l'organisme Handivoile chez Diac cherche à offrir ce qui est très limité pour les personnes vivant avec un handicap dans la région, des occasions de sport et de loisirs. Au Nouveau-Brunswick, près d'une personne sur trois vit avec un handicap, selon Statistique Canada. L'organisme s'adresse directement aux personnes vivant avec des défis physiques, de santé mentale ou d'apprentissage grâce à une approche inclusive soutenue par les dons de la communauté. Les organisateurs soulignent que la stabilité renforcée de ces embarcations adaptées assure une sécurité optimale, ouvrant ainsi la pratique de la navigation de loisirs à un public traditionnellement éloigné des plans d'eau. Dans le courrier de Frontenac, 30 juin, à Thetford Mines, les parents d'un homme âgé de 37 ans vivant avec un trouble du spectre de l'autisme et une déficience intellectuelle sévère dénoncent leur abandon par le réseau de la santé de Chaudière-Appalaches. Leur fils a été victime de voies de fait de la part d'une intervenante à domicile en 2024, une affaire qui s'est soldée par la condamnation de l'employé en mai dernier. Les proches rapportent qu'à la suite des événements, leurs services ont été grandement réduits et qu'ils ont dû faire face à des évaluations remettant en cause la dangerosité de leur enfant plutôt que de recevoir du soutien. Bien que l'aide à domicile ait récemment été rétablie, la famille examine de potentielles démarches légales, alors que la Direction régionale de la santé refuse de commenter ce dossier individuel. Journal de Montréal ce matin, à la suite d'un refus d'accès aux services spécialisés, Valérie Morneau intensifie ses démarches administratives pour faire respecter les droits de son fils autiste Mason, âgé de 8 ans. En raison d'un manque criant de personnel au sein de son centre de services sociaux scolaires, l'enfant se voit privé de soutien constant d'une technicienne en éducation spécialisée, ce qui nuit grandement à son intégration en classe régulière depuis la dernière rentrée. Face à cette rupture de service, la mère a déposé une plainte officielle auprès du protecteur du citoyen afin d'obtenir les adaptations requises pour le cheminement académique de son enfant. De son côté, la direction de l'école réaffirme déployer tous les efforts nécessaires malgré les contraintes de main-d'œuvre qui touchent actuellement le réseau d'éducation. J'ai le temps de vous dire, donc, ben, je pense que je vous le dis, mais vous le savez, on a juste à ouvrir la fenêtre ou sortir pour voir qui fait chaud, c'est humide. Alors, c'est à peu près pas mal tout l'est du pays là-dedans. C'est moins chaud quand même dans les provinces atlantiques, beaucoup moins chaud dans les provinces de l'ouest. Mais il y a quand même des indices UV là, de 7 à 8, donc on met de la crème. Et il y a aussi là, beaucoup de feux de forêt, hein, plus de 600. Et ça, ça risque aussi d'envoyer une mauvaise qualité de l'air. Après la pause, on va parler avec Serge Bradette et on va aussi parler de cirque. Pas avec la même personne.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bon, alors, oui, YMCA, ça dansait un peu dans le studio parce que c'est des grands souvenirs pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi j'ai fait jouer cette chanson? Parce qu'on fait rarement jouer de la musique en anglais ici à Canalem. C'est parce que Victor Willis, qui était le policier dans Village People, est mort aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Cette chanson de Village People qui a été grandement dansée par un certain président américain, états-unien, Donald Trump. Et on sait que Village People aussi a été présent lors de rassemblements pro-Trump. Des fois, je me dis, est-ce qu'ils comprennent vraiment que cette chanson-là avait vraiment une intention très gay, très queer derrière ça? Mais en tout cas, et voilà. Puis j'en profite pour vous dire qu'en 79, pour ceux qui étaient au monde cette année-là, ben, c'était le lancement du Walkman. Ah, voilà, oh Walkman de Sony. Bon, ben non, du Walkman. Des fois, est-ce qu'on porte le Walkman quand on va au petit coin, Serge Bradet?
Parce qu'on devait, parle de ça. On devait à l'époque. Ben là, c'est plus le Walkman, c'est des petits...
C'est le téléphone portable.
Ouais, les petits écouteurs. Puis
on texte.
Oui, oui, oui.
Il y a la lecture aussi de toilettes qu'on peut avoir. Alors ouais. Oui, on va parler du petit coin.
Ouais. Un article que j'ai trouvé dans la revue Ça m'intéresse, histoire, de l'automne 2025, l'automne dernier. Un article de Guilherme Ringuenet. Depuis l'Antiquité, les lieux et les pratiques liées à notre hygiène ont changé. Retour sur la révolution des toilettes, aussi intime qu'universelle.
Ça dépend si c'est son genre ou pas.
Non, non, comment c'est pas là? Non, non, il faut être sérieux, là. Soyons sérieux.
D'accord. Allons-y.
God save la chasse d'eau. Au 16e siècle, John Harrington était poète à la cour de la reine Élisabeth Ière. L'histoire ne se souvient d'aucun de ses vers. En revanche, la postérité l'a retenu pour son invention de la chasse d'eau. En 1596, il conçoit ce dispositif. Un bassin supérieur qui relâche de l'eau dans une cuvette avant d'être évacué par un large tuyau. Sa marraine, la reine Élisabeth Ière, lui demande d'installer ce nouveau joyau dans son palais de Richmond. Et l'invention est améliorée en 1775 par l'Écossais Alexander Cumming, qui résout le problème des remontées d'odeur en créant le siphon en forme de S, toujours utilisé, encore aujourd'hui. 1858. Cette année-là, un été torride s'abat sur Londres. En raison des températures caniculaires, le niveau de la Tamise baisse. Or, en s'asséchant, le fleuve libère l'odeur pestilentielle de toutes les matières qui s'entassent au niveau des égouts, se jetant sur les berges. Un épisode connu sous le nom de « Grande puanteur ». Mais pire que l'odeur, ce sont les maladies comme la diphtérie et le choléra qui menacent la capitale. Fortement incommodés, les parlementaires, parce que Westminster est sur les bords de la Tamise, les parlementaires donc siègent au palais au bord du fleuve affectent rapidement un budget de 3 millions de livres pour transformer les égouts de la ville. 3 millions de livres en 1858, là, c'était des sous, hein?
C'est plusieurs milliards.
Oui.
Peut-être pas autant que le 1,2 milliard qu'a fait Donald Trump avec la crypto-monnaie. On continue. Mon Dieu, qu'il y a des affaires dans ce cerveau-là, des fois, ça me fait peur.
Alors, des WC genrés, pour ne pas choquer, imaginez-vous. C'est au cours du pudibond 19e siècle que se généralise la séparation des toilettes selon le sexe. Aux États-Unis, l'État du Massachusetts, en pleine révolution industrielle, exige que les entreprises mettent à disposition des ouvriers et des ouvrières des toilettes séparées. Alors, bon, il faut rester décent. En France, les Vespasiennes uniquement destinées aux hommes font leur apparition sur les trottoirs. Au nom de la pudeur féminine, la bourgeoisie oblige les femmes à se retenir. Et en 1850, une sage-femme dépose un brevet d'urinoir portatif féminin, soit une culotte étanche avec réservoir, mais le succès n'est pas au rendez-vous.
Bon, je peux juste imaginer. Vespasienne, il n'y en a plus beaucoup, mais lorsque j'étais au défilé la marche des fiertés l'an dernier, ils en avaient installé des temporaires.
Ah oui, oui?
Oui, puis c'est comme un cercle, là, puis là, les gens font pipi en cercle, en tout cas.
Oui, ben, j'avais vu ça.
Dans une certaine intimité, quand même.
Oui, j'avais vu ça dans un documentaire français à Paris, là. Il y avait ça, les toilettes publiques. Oui. Un prêtre qui a du pot, P-O-T. Bien malgré lui, un prédicateur jésuite a laissé son nom à un type de pot de chambre. Louis Bourdaloue, 1632 à 1704, était connu pour ses sermons qui pouvaient durer des heures. Imaginez. Pour y assister, les dames de la cour prévoyaient donc d'apporter un petit vase en argent, en cuivre ou en étain, dans lequel elles urinaient sans rien perdre de son prêche. Là, je brode, c'est pas écrit, mais imaginez. J'espère qu'il y avait un couvercle sur les petits pots, hein? Imaginez l'odeur dans l'église, là. Et quand elles sortaient avec leurs petits pots, tu sais, en tout cas, bon, on arrête là.
Mais à chaque fois, quand j'ai visité Versailles, là, je me rappelle, puis, tu sais, on connaissait un peu les habitudes plus ou moins hygiéniques de l'époque, l'hygiène du roi Louis XIV. Je me disais, mon Dieu, je suis très heureux de vivre à l'époque où on a du savon.
Oui.
D'ailleurs, c'est que la révolution sexuelle, c'est le savon qui a apporté ça.
Oui. Avant le tout à l'égout, il y a eu le tout à la rue. Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, la pratique courante est le tout à la rue.
Oh.
Nuit et jour, les gens jettent par les fenêtres les eaux usées, ordures plus diverses, urine et tout le reste, relate l'historien Roger-Henri Guérin dans « Les lieux, histoire des commodités » aux éditions La Découverte. il faut attendre l'empereur Napoléon III pour que la situation évolue. Le baron Haussmann, que Napoléon III avait chargé de cette mission, Haussmann a chargé l'ingénieur Eugène Belgrand d'un projet titanesque au nom de l'hygiène, la création du tout à l'égout. Figurez-vous, il y a 560 km de canalisation qui sont posés sous Paris à partir de 1869. 560 km, c'est de Montréal à quoi? À Toronto, plus que Toronto?
Un petit peu plus que Toronto, oui.
Imagine, c'est en fait l'égout.
Et d'ailleurs, toute l'œuvre de Victor Hugo, on peut parler de Notre-Dame de Paris qui se déroule dans les égouts de Paris.
Oui.
Et certains égouts ont été transformés en rail, en fait, en couloir de métro, hein, en tunnel de métro.
Ah oui?
Oui. C'est-tu des choses?
Oui,
hein? On va sortir d'ici plus intelligent, c'est clair.
Et évidemment, le papier de toilette.
Ah.
Et le papier de toilette fut. En 1857, l'Américain... Pourquoi Isabelle rit tout d'un coup?
Ah, ben écoute, elle ne peut pas se retenir. Ah, mon Dieu, je n'aurais peut-être pas dire ce mot-là. Pas dans les circonstances, oui.
Donc, en 1857, l'Américain Joseph Gaiety commercialise le premier papier hygiénique. Ce papier thérapeutique se présente, parce qu'on le présentait comme ça, un papier thérapeutique, se présente sous la forme de feuilles prédécoupées, vendues en paquets et imprégnées d'aloe vera.
Ah,
ouais. Imaginez-vous, ben oui.
C'est tendre pour les foufounes.
Ce qui n'empêche pas les utilisateurs, alors de la haute bourgeoisie, de le trouver irritant, car certaines feuilles ont des échardes. Rien, là. Laissez-vous. Prenez les images qui s'en vont, en tout cas, parce que bon. Qu'aurait-il pensé du tersorium des Romains? Cet ustensile se composait d'un bâton à l'extrémité duquel était attachée une éponge imbibée de vinaigre blanc.
Oh!
Aïe, aïe, bon. Oh. Water closet. Ce mot anglais signifiant cabinet à eau remonte à 1755. En France, on l'utilise pour désigner les lieux d'aisance équipés d'une chasse d'eau. Mais l'abréviation WC a fini par entrer dans le vocabulaire français alors qu'elle n'est pas employée par les Britanniques. Mais ça fait longtemps que je parle en Angleterre, je ne sais pas qu'est-ce qui est marqué, c'est toilette, eux autres?
The loo. Hein? L-O-O, non, ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent. Moi, je connais de loup, oui.
Ouais. Alors, quant à la version francisée, c'est WC. Mais elle est désormais jugée vieillotte.
Ouais.
Un petit peu vieillotte. Des cabinets vieux comme le monde. En 2021, des fouilles réalisées dans un quartier de Jérusalem ont mis au jour des toilettes vieilles de 2700 ans. On ne dit pas si elles étaient encore en service, mais bon. Ces cabinets privés, placés au-dessus d'une fosse septique, sont constitués d'un siège taillé dans la roche calcaire avec un trou au centre. Les archéologues ont aussi découvert à côté 30 à 40 bols qui auraient pu contenir des huiles aromatiques pour désodoriser les lieux. Bon, c'est quand même bien. On a pensé à ça. En terminant, à Rome, on fait comme les Romains. Durant l'Antiquité, faire ses petits besoins naturels n'a rien de gênant. C'est dans le texte, là. Hein? Bon. En 315 après Jésus-Christ, Rome compte 144 toilettes publiques. Les thermes sont aussi équipés de latrines, pouvant accueillir une dizaine de personnes en même temps, désireuses de poursuivre leur conversation. L'évacuation des eaux usées se fait par un réseau complexe de canalisation et seuls les citoyens les plus riches disposent de leur propre lieu d'aisance. On m'a raconté qu'il y avait un reportage sur ça à New York, il y avait une discothèque bien flyée il y a une trentaine d'années, et les toilettes, c'était ça. C'était un cercle, là, les sièges de toilettes étaient en rond, puis tu jasais avec la personne à côté de toi.
Oh là 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 là. Faut pas, comment est-ce qu'on dit ça? Faut pas être « pee shy », comme ça se dit en anglais, parce que ça peut être compliqué. Isabelle, je t'entends rire. Moi, j'ai l'image dans la tête, je ne sais pas si tu penses à la même chose que moi, mais de ce fameux roi Louis XIV qui, lui, pendant qu'il s'adonnait à ses évacuations régulières, tenait des rencontres avec son cabinet. De là, l'expression, j'imagine, cabinet, peut-être?
Il y avait quelque chose sur ça à un moment donné que j'ai vu, là, je ne l'ai pas en tête, là, mais oui.
Isabelle?
Moi, c'était Henri IV, parce que j'ai lu la série Fortune de France à maintes reprises, puis il y a un épisode à un moment donné où le roi, il y a un des personnages qui vient parler au roi, puis les deux font leurs besoins en même temps pendant la conversation.
Il appelait ça des rencontres au sommet, peut-être.
Oui, c'est ça.
Mais vous savez d'où vient l'expression « comment ça va »? Ah, comment allez-vous? Comment ça va? Ça vient exactement. Est-ce que c'était la question qu'on posait aux gens? Est-ce que tu as eu ton évacuation quotidienne? Est-ce que ça va? Sinon, ben, si tu es constipé, évidemment, ça ne va pas
ça
bien.
Va pas.
Ah, d'accord, d'accord.
Ah, on en apprend des choses. Alors, l'importance du petit coin.
Oui, 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 oui.
Sur ça, on va passer en musique, puis on va parler de cirque. On va peut-être relever un peu le niveau de notre discours aujourd'hui.
Oh, ouais, oh, ouais.
Jean et sa chanson québécoise.
Alors, si vous aimez le cirque comme moi, puis là, je t'ai pas faire une blague parce que j'ai décidé de garder avec nous Serge Verdet. J'aime beaucoup les clowns, Serge. J'ai décidé que tu resteras avec moi. Oh non, c'est gentil.
C'est vrai, bon,
ah, ben tu sais, il y a notre petite rigolote qui est restée aussi avec nous. En fait, on va parler de Montréal Complètement Cirque qui bat son plein présentement. Et vraiment, si vous aimez les arts circassiens, vous allez être servis. Alors, cet été, le monastère devient une véritable arène avec le retour du cabaret du Jugement dernier. Puis j'ai compris, puis je ne l'avais pas vu l'an dernier, ça, mais c'est une espèce de compétition, c'est assez unique. Alors, on va en discuter avec Guillaume Blais, qui est directeur à la gestion et la création pour le monastère. Ah, écoute, deux fois en deux semaines que tu fais l'émission,
quand même, hein?
C'est la carte d'invité chouchou, là. Guillaume, ben, bienvenue à l'émission. Comment est-ce qu'on pourrait décrire le concept du Jugement dernier?
Bien, le concept, c'est vraiment fait que c'est une compétition comme tu l'as mentionné. Et en fait, tous les artistes de cirque, pas tous, mais en grande partie, on représente souvent le Québec à l'étranger, à travers les festivals. Il y a des compétitions. Puis l'ironie, c'était qu'à Montréal, en fait, on a un gros bassin d'artistes, mais on n'avait pas de compétition. Donc l'idée est venue de là, en fait, de créer, on dit une compétition, mais c'est quand même une compétition amicale.
Ben oui, ben oui. donc, c'est une vraie compétition, mais il y a quand même... Le titre évoque quand même quelque chose que je dirais de dramatique et de définitif, Jugement dernier. Alors, qu'est-ce qui attend concrètement le public?
Mais en fait, c'est vraiment des numéros qui viennent, oui, de Montréal, mais on a aussi des artistes étrangers. On a Nikki qui vient de la Pologne. Puis dans le fond, on a un jury de 5 membres, que c'est souvent des compagnies autres montréalaises, qui viennent juger justement les artistes. Ils ont certains critères. Et à la fin de nos représentations, le dernier soir, on remet le calice d'or, le calice d'argent et le calice de bronze.
Ah oui, parce qu'on est, ouais, on est dans une église.
Exactement.
Oui, parce qu'il faut expliquer, parce qu'on va le redire, le monastère, c'est une église, et c'est une église qui est encore sacralisée, il y a des messes.
Oui, exactement, c'est un partenariat qu'on a développé avec eux, donc on a adapté l'église pour pouvoir accueillir du cirque, et nous, on s'occupe de l'espace du lundi au samedi, et eux, on l'église en fait le dimanche où ils font leurs activités.
Donc, est-ce que le curé est sur un trapèze en train de donner la communion, non?
Non, mais il est souvent nos premières, puis c'est quand même vraiment impressionnant de voir leur ouverture d'esprit.
Ah oui. Ouais. Parce qu'il faut dire que le dernier moment où on s'en est parlé, c'était pour parler de confession 2. Ouais. Là, il faut dire que ça allait assez profondément dans certaines choses qui étaient peut-être pas très catholiques.
Non, mais je pense que quand il y a une proposition artistique qui est derrière et qui est soutenue, c'est là que le message est quand même différent que...
Ouais. On va regrouper dans le jugement dernier, on regroupe... faut aussi vous comprendre que les titres qu'on choisit, on essaie de rester dans un titre qui va avec le décor. C'est fabuleux en passant. Si vous avez la chance d'aller voir ça à Montréal, c'est fabuleux. Donc, on regroupe des talents d'un peu partout sur la planète. On les a trouvés comment?
Bien moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du cirque, donc c'est vraiment souvent mon réseau que j'utilise, puis je sais qui est en ville et j'essaie de construire justement les castings à travers les artistes qui sont en ville à ce moment-là. Je pense que vu que c'est pas dans Montréal complètement cirque, la différence, c'est qu'on se permet souvent de faire un appel casting parce qu'il y a beaucoup d'artistes de l'étranger qui viennent à Montréal, donc ça permet vraiment de découvrir des nouveaux talents aussi qu'on n'aurait pas la chance de voir généralement.
Alors, quelques exemples, qu'est-ce qu'on va voir?
Il y a un numéro de Ma Pendulaire, qui est justement Nikki, la contorsionniste de la Pologne. Mm-hmm. On a aussi Joe DePaul, qui est le maître de cérémonie. C'est, à mon humble avis, le meilleur clown qu'on a à Montréal. Il a passé une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, au Cirque du Soleil.
Ouais.
On a Basile Poussec, qui fait de la jonglerie avec des balles de neige. Donc, on cherche aussi justement l'innovation. Un numéro de Diabolo. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. Puis il y a aussi un numéro de mât. C'est un genre de mât rotatif. En fait, c'est une nouvelle création d'une compagnie de Québec.
Oh, ça, c'est intéressant tout ça. Alors, les spectateurs aussi sont appelés à participer à cette remise de prix. Un peu, ils peuvent voter, si je comprends.
Oui, bon point. En fait, sur chaque table, il y a les codes QR, puis le public est vraiment invité à venir voter. Puis à la fin, on remet aussi le coup de cœur du public.
Ah, ça, c'est le fun. C'est nouveau, cette collaboration avec Montréal Complètement Cirque et le monastère?
Non, je pense que c'est notre quatrième année.
Ouais. C'est important, cette collaboration?
Ben oui, en fait, Montréal, on est comme une des seules compagnies autres que la TEU qui diffuse le cirque à l'année au Québec. Mm-hmm. Donc, le festival est là justement pour faire réunir toutes les compagnies. Donc, c'est vraiment important de faire partie de ce bassin-là et de populariser, en fait, les arts du cirque.
Guillaume, j'entends toujours parler de Montréal comme étant une ville de cirque. Est-ce que c'est vrai et pourquoi?
Bien, en fait, tous les artistes de cirque, bien, pas tous, mais beaucoup d'artistes de cirque viennent se former à Montréal parce qu'on a les meilleurs coachs, les meilleures écoles. Donc, on vient vraiment faire nos créations ici. Même les compagnies de cirque, on crée ici, puis ensuite, on exporte notre art. C'est un peu ce qu'on a essayé de créer aussi avec le monastère, parce que 90% du marché en tant qu'artiste, c'est à l'international. Donc, c'est vraiment difficile de performer à la maison. Et c'est là qu'on a créé le monastère pour créer une plateforme, justement, où on peut présenter notre travail et pas juste une fois par année pendant le festival. C'est merveilleux, le festival, mais...
Moi, le monastère, ça fait quelques années que je vais voir des spectacles chez vous. Et là, vous avez complètement changé mon expérience de cirque. Maintenant, je veux être dans les premières rangées parce que je veux avoir ce contact, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit. Des fois, c'est spectaculaire de loin. Mais je ne sais pas pour toi aussi, Serge. Moi, quand je suis prêt, je ressens l'émotion de l'artiste.
Oui, puis c'est vraiment là-dessus qu'on mise, en fait, sur la proximité, en fait, parce qu'en fait, tous les artistes qui passent sur notre scène, on a tous fait les plus grandes scènes, le Cirque du Soleil, les Sept Doigts de la Main, le Cirque Éloise. C'est juste que là, on est vraiment assis à quelques pieds ou mètres de l'artiste, donc ça permet de l'entendre respirer, tu vois tous les muscles travailler, donc ça change vraiment l'expérience.
Moi, je me rappelle d'artistes, je pense qu'ils étaient nigériens, au Cirque du Soleil, il y a quelques années, c'était à Echo, et qui avait fait un numéro extraordinaire. Bon, j'étais là aussi, c'est au même moment, il y en a un qui s'est blessé, mais ils avaient réussi un de leurs exploits, puis ils étaient tellement fiers d'eux-mêmes, c'était tellement beau, puis on le ressentait comme public. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire.
Mais vraiment, puis tu sais, quand on y pense, en fait, pour présenter un numéro de cirque, souvent un artiste passe entre quoi, 2 et 5 ans à peaufiner son art. Oui. Puis c'est aussi un peu ça le clin d'œil qu'on fait avec le monastère, que finalement, être un artiste de cirque, c'est vraiment un travail de moine, quoi.
J'adore. Ben justement, est-ce qu'on peut parler au moine qui est devant moi? Parce que Guillaume Blais, ça vient d'où cet amour du cirque pour toi?
Juste la vie qui m'a amené là par hasard. En fait, j'étais coiffeur et je me suis mis à faire les perruques au Cirque du Soleil. Et, ouais, et j'étais au Centre Bell backstage et j'étais comme, moi, je vais faire ça. Et j'ai fait les auditions à l'école de cirque. J'étais flexible, je le savais pas. Puis j'ai fait l'école de cirque et je suis parti depuis en tournée.
Tu étais t'es trapéziste?
Ouais, exactement.
Alors, ça veut dire quoi, là? C'est dur, c'est dangereux, ça?
Ben oui, on est quand même à une vingtaine de pieds de haut dans les airs. Ouais. Je le fais en duo, donc c'est avec souvent qu'une partenaire. Donc, évidemment, vu mon gabarit, j'attrape et je lance.
Oui, comme je disais tantôt, tu peux quand même transporter un piano là, quand on te regarde, mais bon, Mais qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté?
Un petit accident de parcours qui n'était pas sur le trapèze. En fait, j'ai glissé sur la glace et je me suis cassé le scaphoïde dans la main.
Et depuis ce temps-là, c'est fini?
En fait, j'ai dû arrêter pendant une année. Et si j'avais voulu remonter sur le trapèze, le nombre d'heures et de travail que j'aurais dû remettre à l'entraînement, ça m'aurait pris trop de temps. Et maintenant, avec mes projets en production, j'ai juste fait le choix de raccrocher mon trapèze.
Ça te manque pas?
Une fois de temps en temps.
Wow! Guillaume Blais, je ne sais pas, est-ce que tu avais une question, Isabelle?
Non, ben, je suis juste tellement fascinée parce que c'est le cirque, c'est quelque chose, c'est plus ça a l'air facile, plus c'est difficile, je trouve.
Exact.
Puis c'est tellement un beau spectacle. J'ai beaucoup d'admiration pour les artistes de cirque.
Et c'est vraiment ça notre travail, en fait, c'est de rendre ça que ça a l'air facile, en fait, pour pas que si tu as l'air de forcer, ça veut dire qu'il te manque un petit peu d'entraînement généralement.
Mais je ne savais pas, je viens d'apprendre de ce qu'il a dit, Guillaume, tout à l'heure, qu'on avait l'expertise pour la formation.
Oui.
Mais j'en viens pas, c'est incroyable.
Mm-hmm. Il y a beaucoup de lieux d'entraînement, ben, il y a l'École nationale déjà, toutes les compagnies sont basées ici, donc on amène souvent les artistes justement en création, donc il y a tout ce
groupe. Ils viennent prendre leur formation ici, puis après,
La TEU, il y a plein d'endroits où les gens peuvent se pratiquer, s'exercer. Je pense au Cirque Éloise aussi, qui ont une salle d'entraînement.
Cirque Éloise,
c'est le doigt de la main. Oui. C'est assez... Non, en fait, je pense que le Québec, tout le monde pense au Cirque du Soleil, qui a quand même montré le chemin, mais c'est là depuis longtemps.
Oui, mais en fait, le cirque, je pense, a ouvert la porte au nouveau cirque, comme on dit communément, mais du coup, je pense qu'on repousse de plus en plus loin les limites, on revisite justement les disciplines, c'est plus juste ça, on fait un salto, maintenant c'est quelle histoire je raconte avec mon salto.
C'est ça qui est intéressant, et ça, c'est le Cirque du Soleil a amené ça beaucoup.
Mm-hmm. Exact.
D'autres cirques. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même te remercier d'être venu, puis nous, on va aller voir ça vendredi, le cabaret du Jugement dernier. Merci beaucoup, Isabelle, d'être resté avec nous tout ce temps-là, une heure de temps. Franchement, c'est gentil. Merci aussi à Serge Bradet.
Plaisir.
Nous, on continue après la pause. On va parler de Tracer les mots. C'est un livre qui parle de la violence physique et sexuelle à l'enfance chez les hommes. Un sujet dont on ne parle pas, qui est tabou, bien, c'est un livre qui va en parler. Et bon, je le dis d'entrée de jeu, j'ai participé à la rédaction de ce livre. Alors, mais je vais quand même être rigoureux dans mon entrevue, je vous le promets. Puis on va parler aussi des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada avec Julien Caillouette de Franco-Presse. Et puis, ben, je vais le faire même de mémoire, je ne trouve pas mon papier, mais il fait chaud. Alors, de grâce, prenez le temps de vous déshydrater, restez à l'ombre le plus possible et prenez soin de vous et de vos amis. Et nous, on vous revoit après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je sais pas si tu voles ou bien si tu tombes, si t'attends juste que la neige fasse. sur ta jambe. Cette saison nous ressemble.
Clopelgag, le goût des mangues.
Alors voici un sujet crucial, trop souvent relégué au silence. La violence sexuelle vécue par les hommes durant leur enfance. Les données indiquent qu'entre 8 et 20% des hommes ont subi de telles violences et qu'il s'écoule souvent plusieurs décennies avant qu'ils ne brisent le silence. Pour humaniser ces statistiques et briser les tabous, le livre « Tracer les mots » allie l'art à la science afin d'offrir un espace de reconnaissance et de guérison. Nous recevons Natacha Godbout, qui est directrice du collectif national sur la victimisation masculine et de l'unité de recherche sur le trauma et le couple de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Natacha.
Bonjour Denis Martin.
Alors d'entrée de jeu, par transparence, je vais vous dire que je connais très bien Natacha. J'ai contribué à la rédaction du livre dont il est question, mais je vous promets que je suis capable de rigueur malgré tout cela. Alors on commence Natacha. Qu'est-ce qui a déclenché l'urgence de créer un livre collectif et d'allier la recherche scientifique aux arts visuels, parce qu'il n'y a pas juste de l'écrit, il y a aussi des dessins qui sont super beaux, et aussi les arts littéraires pour aborder les traumas vécus par ces hommes?
C'est notre désir de rassembler des personnes de différents domaines, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu elles-mêmes, des hommes qui ont vécu les expériences d'agression sexuelle en enfance, qui nous ont parlé, qui ont fait des entrevues avec nous, qu'on a eu des verbatims, de rallier les données de la recherche. Moi, je suis une chercheure, une professeure, une formatrice, une psychologue. Mais pour aller chercher le monde, pour aller sensibiliser la population, mes articles scientifiques, voir des gens, c'est sûr que j'aide plusieurs mondes en individuel, mais c'est pas la même chose que d'aller parler au grand public. Et l'art a quelque chose de magique pour aller parler au monde, pour aller humaniser, pour aller chercher l'empathie, pour suivre quelqu'un et pouvoir vivre ce que la personne pourrait avoir vécu. Donc, c'est ce désir profond de rassembler des gens du milieu de la recherche, des arts visuels, des arts littéraires, du milieu de l'intervention, du journalisme, même du monde politique, toutes des personnes engagées dans la construction d'une société qui serait véritablement sensible au trauma.
Alors, moi, ce que je vais quand même parler un petit peu du processus puisque je l'ai fait, puis ça va nous aider à aller à la prochaine question. Alors, moi, ce que vous avez fait, vous m'avez envoyé deux entrevues. On avait enlevé les noms pour ne pas savoir qui étaient les personnes. Et à partir de ces deux entrevues-là, aux deux témoignages, j'ai créé une histoire à partir de ça. Et l'histoire aussi a fait l'objet d'un dessin. C'est un peu le processus pour tout le monde. Alors, et ce que j'ai découvert là-dedans, c'est que les stéréotypes de masculinité, hein, selon lesquels un vrai homme, ça ne peut pas être une victime, ça ne pleure pas, ça contribue beaucoup à isoler les survivants. Alors, comment les textes et les illustrations de cet ouvrage s'attaquent-ils directement à cette stigmatisation?
Je crois que c'est un des pouvoirs encore là des artistes. Je trouve que depuis que le monde est monde, là, tu sais, les artistes ont toujours eu cette capacité d'aller remettre en question les normes et les tabous de la société, les récits dominants. Donc, ton exemple à toi, Denis Martin, c'est intéressant parce que c'est ça que tu as capté clairement dans les récits spontanés des hommes qui nous ont partagé leur histoire, de montrer comment, donc premièrement, l'adhérence aux normes traditionnelles de la masculinité, ça fait mal à tout le monde, mais premièrement à ceux qui les assument et qui les endossent aussi sont des victimes elles-mêmes de ces normes-là. Et plus qu'ils ont endossé, la recherche nous montre que plus qu'ils endossent ces normes-là, et plus qui ont de la difficulté à être heureux, à être bien, et ceux qui sont victimes à se rétablir de ces victimisations-là. Donc, ça transparaît, cette idée-là, à travers les textes, et des artistes qui lisent ça, bien, le captent, et sont capables de rendre visible l'invisible, de mettre des mots sur ces mots-là, et de briser certains tabous pour questionner ces récits dominants, de montrer les expériences encore marginalisées, négligées, comme ces expériences de violence sexuelle en enfance.
Le récit donne la parole à plusieurs auteurs et artistes qui abordent des thèmes donc, comme la paternité, le rejet des stéréotypes, l'appel à la guérison. Il y a beaucoup de lumière dans le livre en passant. Ça, en fait, je dis le livre, c'est pas encore publié, ça s'en vient. Ce que je trouve intéressant, c'est de savoir comment les personnes qui ont contribué les témoignages à partir desquels nous avons écrit ces textes, comment ils ont réagi quand ils ont lu les textes?
Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils trouvaient que c'était une façon de rendre leurs paroles pas identiques, mais s'inspirer pour être capable, encore une fois, d'aller toucher plusieurs personnes. Fait que de contribuer à ce mouvement-là était quelque chose à laquelle ils étaient contents de participer.
J'aimerais qu'on parle maintenant du fait que ces textes-là sont disponibles en ligne, hein, Tracer les mots MAUX, on peut trouver ça sur en faisant une recherche sur son navigateur. Ça existe aussi en version audio, mais là, ça va exister en format papier. Pourquoi?
Parce que le papier a quelque chose aussi de concret. Donc, de l'avoir dans les mains, de pouvoir avoir les œuvres assemblées, de pouvoir peut-être même interagir, souligner, écrire, etc. D'avoir cette œuvre-là dans ses mains a quelque chose de complémentaire. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée-là de faire... Bon, ça fait rayonner aussi. C'est quelque chose de l'avoir sur son écran, mais de l'avoir comme un vrai livre, un objet dans ses mains. On est ailleurs. Il y a quelque chose de plus vrai.
C'est comme une valeur patrimoniale qu'on dit souvent hein, sur le livre papier.
Oui, c'est ça. Il y a une odeur, il y a une texture, on le touche, on peut feuilleter, on peut interagir avec d'une autre façon. Donc, il y a quelque chose qui peut venir être complémentaire plutôt que, c'est sûr qu'en ligne, c'est intéressant aussi, on peut l'écouter. Oui. Hein, il y a même des auteurs comme toi qui ont fait eux-mêmes le son, l'audio. Donc, on a plein de modalités qui viennent chercher, puis même pour la même personne, pour moi, l'avoir lu de différentes façons, l'avoir écouté, puis là, l'avoir, quand je l'aurai dans mes mains, c'est pas la même expérience. On dirait qu'on le revisite de d'autres façons, le même texte. Donc, je trouve que c'est complémentaire.
Ça va être publié aux éditions TNT, qui est une maison d'édition, qu'on dit une entreprise d'économie sociale. Quand même intéressant aussi, parce que c'est pas une grosse entreprise qui est là pour faire beaucoup d'argent, mais elle est là pour aider les auteurs, autrices de la relève. Comment se passe cette contribution, ou cette collaboration plutôt?
Très bien. Bien, on voit que c'est une maison d'édition qui le fait pour des raisons humanitaires, pour des raisons communautaires. C'est pas nécessairement pour faire des gros profits, là. Tu sais, c'est pas avec ça qu'ils font pour d'autres raisons ancrées dans leur humanité. Donc, on partage cette mission commune d'aller collaborer pour quelque chose de plus grand que nous, pour essayer de partager de cette œuvre collective pour faire rayonner, oui, le talent des artistes, mais c'est au service d'une cause qui nous dépasse, celle du monde du trauma, celle d'aller vers une approche sensible au trauma pour mettre de l'avant chaque personne victime dans sa lutte contre les violences sexuelles et pour se rétablir des répercussions.
Moi, je me rappelle, on a commencé ce projet-là en 2022, si je ne me trompe pas. Et est-ce que, là, je vais me permettre de le dire au-dessus, est-ce que tu t'attendais à une telle réaction de la population des gens vis-à-vis de ce projet?
J'espérais avoir une réaction intéressante, mais j'ai l'impression que c'est un projet qui peut vivre longtemps. J'ai l'impression que c'est un projet qui a plusieurs vies, qu'on pourrait même relancer des versions suivantes ou peut-être relancer une façon de faire vivre ce projet-là, parce que c'est un projet porteur qui vient chercher les gens du public. Puis les gens, tu sais, il y en a beaucoup dans le public qui ont vécu hein, toutes sortes d'expériences. Donc, ou qui ont accompagné ou qui connaissent quelqu'un. Le trauma n'est jamais très, très loin, malheureusement, avec les taux de prévalence qu'on a dans nos sociétés. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça interpelle plus qu'on pensait. Et en même temps, comme tu le dis, c'est une façon qui est... on n'est pas dans un sous-sol noir, là. On ne s'en va pas dans une souffrance, on s'en va vers quand même de la lumière, de l'espoir, tout en étant capable de ne pas non plus rendre ça. On sait que c'est des violences, on sait qu'il y a quelque chose d'épouvantable, de réellement burk là, dans ces expériences-là, mais sans se noyer dans la noirceur que ces expériences-là peuvent nous apporter pour montrer aussi qu'on peut s'en sortir. Il y a de l'espoir.
Oui, ben en fait, je pense toujours à cette fabuleuse image, cette œuvre en fait qui a été produite par Florence Sabatier, qui illustre mon texte. Et il y a cette porte avec de la lumière qui est ouverte, qui est là. Je trouve que ça nous aidait à voir qu'il y a du lumineux quelque part dans tout ça.
Exactement. Et il y en a toujours de la lumière. Fait que c'est cette idée-là de dire on ne fait pas fi de l'expérience difficile qui a été vécue et des traces encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en parle.
Oui.
Parce que ces expériences-là laissent des traces et lorsqu'on n'en prend pas soin, ces traces-là peuvent se maintenir et même s'exacerber et nuire à la vie quotidienne des personnes victimes. Et on veut pas ça. On veut qu'ils entendent qu'il y a moyen d'en parler, que c'est pas un tabou, que c'est pas à eux de porter la honte. Il y a moyen aussi de prévenir que les jeunes aujourd'hui ou que les personnes soient revictimisées ou soient victimisées. Et il y a moyen aussi de guérir, de se rétablir pour avoir une vie qui vaut véritablement la peine d'être vécue aujourd'hui, peu importe les expériences du passé.
Un gros merci, Natacha Godbout, directrice du Collectif national sur la victimisation masculine et de l'unité de recherche sur le trauma et le couple à l'Université du Québec à Montréal. Et je rappelle donc que Tracer les mots, M-A-U-X, sera publié aux éditions TNT. Et ça va être bilingue aussi. Il y a une version anglaise qui va être de l'autre côté du livre. Merci beaucoup.
Merci à toi. Bonne journée.
Bonne journée.
S'emparer de nous ce soir, on se fera pas plier, on se rendra à toute vitesse, franchir ensemble le long couloir qui mène là où personne n'ose, danser jusqu'au lever du jour, quitte à paraître fou, car plus rien ne vaut la peine si on l'a jamais, s'en fout. Ce soir on n'est pas déguisé en des gens qui s'amusent. Sorry. Ça peut paraître cliché, mais souvent les meilleures soirées sont celles qui ne sont pas planifiées. Quelques verres pour se confier, merde on n'a pas le temps de parler. Car entre les convives, je n'ai qu'une seule directive. Faire que la soirée festive nous met.
William Cloutier et sa chanson ce soir, Je danse.
Bien, c'est le temps de faire le tour de la francophonie canadienne avec notre chroniqueur, Julien Caillouette de Franco-Presse. Allô, Julien?
Salut, Denis Martin, ça va bien?
Ça va très bien. Alors, bien, on va faire un petit tour d'horizon aujourd'hui. Les travailleurs de 50 ans et plus sont-ils une solution oubliée à la pénurie de main-d'œuvre?
Oui, c'est une nouvelle initiative de la Fédération des aînés francophones du Canada qui attire notre attention ici. Ça s'appelle Zone emploi 50+, puis l'objectif, c'est de favoriser l'embauche de personnes âgées, entre guillemets, là, parce que je rentre dans cette catégorie-là, 50 ans et plus, et je me sens pas âgé encore, donc de la francophonie canadienne. La Fédération voit plusieurs bénéfices à l'embauche de ces personnes-là, entre autres une façon de combattre l'âgisme, mais aussi de contrer une partie de la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît dans la francophonie. Les personnes qui ont pris leur retraite travaillent de plus en plus souvent, c'est une chose qu'on constate en général. Puis parfois, ça peut être pour avoir le revenu supplémentaire et d'autres fois, ben c'est parce qu'ils se rendent compte après avoir profité de leur retraite un peu qu'il leur manque quelque chose, qu'ils ont besoin de s'accomplir, qu'ils veulent voir des gens puis qu'ils veulent dans le fond, encore un peu travailler. Donc, ils se lancent soit dans un métier connexe ou quelque chose de nouveau. Ce que Zone Emploi 50 Plus offre pour les aider, c'est des connexions avec des employeurs, un peu de mentorat, puis des ateliers de formation contre l'âgisme pour les milieux de travail, justement.
Ouais, ça, c'est une nouvelle qui me parle beaucoup parce que moi, je vais avoir 65 ans ce mois-ci, alors, et je suis toujours au travail. Trois échecs pour les services en français à l'hôpital de Miramichi. C'est la Quasi-Nouvelle qui nous dit ça.
Oui, l'hôpital de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, qui est sous les projecteurs depuis une semaine en raison d'un rapport accablant de la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, puis aussi d'un témoignage d'une dame devant un comité. Donc, ce que le rapport de la commissaire a étudié, deux plaintes. Et la première plainte, c'était un homme unilingue francophone qui s'était fait annoncer la mort de son père au téléphone en anglais seulement par un employé de l'hôpital. Donc, plus ou moins compris de quoi il était question. Puis la deuxième plainte, c'était qu'un autre homme, après 7 jours à l'hôpital, n'avait toujours pas réussi à avoir de service en français. Puis il a demandé son congé. Il n'était plus capable. Puis la commissaire, dans les deux cas, a blâmé l'hôpital pour le manque de service. Le témoignage que j'ai mentionné, c'est une dame qui est allée devant le comité parlementaire des langues officielles du Nouveau-Brunswick qui a raconté comment sa sœur à elle, qui a une déficience intellectuelle et qui ne parle pas anglais, a passé comme 3 mois à l'hôpital de Miramichi, puis elle a très rarement vu du personnel qui parle francophone s'occuper d'elle. Elle n'était pas maltraitée, mais en raison de ce problème de communication-là, elle n'était pas super bien traitée non plus. Elle n'était pas capable de communiquer ses besoins ni de recevoir nécessairement les soins appropriés dont elle aurait eu besoin. Tellement que sa famille a engagé quelqu'un pour être avec elle presque tout le temps pour pouvoir l'aider à communiquer. Dans son rapport, la commissaire dit que les plaintes ont beaucoup augmenté au cours des dernières années envers l'hôpital de Miramichi. Elle voit un manque flagrant de volonté d'agir et de la part de la direction pour offrir des services en français. De son côté, la régie de la santé qui opère l'hôpital dit qu'ils vont procéder à un examen approfondi pour cerner les causes de ce manquement-là à l'hôpital de Miramichi. Qui, je vous rappelle, Miramichi, c'est du côté est du Nouveau-Brunswick, c'est à l'entrée sud de la péninsule acadienne à peu près. Donc, c'est pas une région anglophone, là. C'est une région quand même assez francophone.
Oui, alors encore du travail à faire là-bas. Il y a les élèves ontariens qui seront pénalisés pour leur absentéisme. C'est le droit qui nous raconte ça.
La loi du gouvernement de l'Ontario a été présentée il y a plusieurs mois, mais là, finalement, elle entre en action. Fait que les changements ont été confirmés la semaine dernière par le gouvernement Ford, puis ils vont être effectifs dès la rentrée. Puis ce à quoi on s'attarde, c'est les examens de fin d'année, puis la présence et la participation des élèves en classe qu'on regarde. Donc, les examens de fin d'année vont compter pour de 10 à 15 de la note finale au cours des années du secondaire. Puis, toutes les matières vont devoir avoir un test écrit, y compris les cours d'art et d'éducation physique. Ensuite, avoir plus de 2 absences non motivées va empêcher un élève d'obtenir la meilleure note, là, comme un A. Puis les absences pour des raisons de santé ou des intempéries vont pas compter, évidemment. C'est vraiment des absences pour lesquelles on donne pas de raison. Le syndicat des enseignants regrette un peu cette vision-là du gouvernement. Ils disent que ça enlève de la latitude aux enseignants pour utiliser leur propre jugement pour évaluer si un élève mérite une note ou non, avec des cases un peu trop carrées, un peu trop strictes. Puis du côté de l'opposition au Parlement, mais on regrette que le milieu éducatif n'ait pas été consulté, puis on s'inquiète également que ça fasse augmenter le décrochage scolaire.
Saskatchewan maintenant, un projet pour pérenniser la francophonie dans le nord de la province.
Je vous amène à Prince Albert, qu'on dit être au nord de la Saskatchewan, mais si vous visualisez la carte de la Saskatchewan dans votre tête, là, c'est à peu près en plein milieu du rectangle. Prince Albert est une communauté historiquement assez francophone, puis qui connaît une croissance de ses activités culturelles, communautaires, économiques et éducatives en français depuis quelques temps. Donc, on voit un besoin immédiat, puis même pour l'avenir, pour un lieu de rassemblement de cette francophonie-là. Les promoteurs ont déjà trouver l'endroit et des partenaires pour le faire. L'endroit, ça s'appelle, c'est un édifice qui existe déjà, ça s'appelle la Plaza 88. Puis, on voudrait réaménager ça pour installer plusieurs associations. Là, ça inclut l'Association des parents francescois, l'Association des jeunesses, le service d'accueil pour les immigrants, le Collège Mathieu, le Conseil économique, puis la Société canadienne-française de Prince Albert. Dans l'édifice, ce qu'on aimerait mettre comme infrastructure, c'est des bureaux, évidemment, pour tout ce monde-là, un service de garde pour les enfants, un espace dédié à l'éducation postsecondaire, une galerie d'art, un studio et ou des salles d'événements. Puis, selon les projections du plan d'affaires, on pourrait même dégager un excédent de revenus dès la première année. Donc, les promoteurs veulent aller assez rapidement parce que, comme on dit, on en a besoin dès maintenant. Puis, donc, ils doivent aller chercher 3,5 millions de dollars pour financer la rénovation puis l'installation. Et leur objectif, ce serait d'ouvrir en 2028 si tout va bien. Il semble quand même, d'après l'article de l'Eau Vive, avoir un certain engouement dans la ville pour le projet.
Et puis, on termine avec Laurent Boréal qui nous parle de services en français. Le territoire se dote d'un formulaire de plainte.
Oui, je vous parlais il y a quelques minutes de l'importance de pouvoir faire des plaintes pour des services en français dans un hôpital au Nouveau-Brunswick. Les salles à l'autre bout du pays, au Yukon, ils peuvent maintenant faire officiellement une plainte pour des services en français grâce à un premier formulaire instauré par le gouvernement. Même si la loi sur les langues du Yukon a été adoptée en 1988, donc c'est la première fois qu'on a un formulaire de plainte comme ça, qui est apparemment, nous dit-on, simple et clair, qui permet de porter plainte sur un manque de service. Puis c'est une demande que la communauté francophone fait depuis 14 ans. Comme je vous dis, ce qu'on raconte dans l'article, c'est que le formulaire est simple et clair. Il y a une seule question qui est obligatoire, c'est le détail de la plainte. On dit que le processus va être également simple et rapide. Les ministères vont être mis à profit pour traiter les plaintes. Donc, quand il y a une plainte qui est déposée, ça passe dans un premier système, puis après ça, on l'envoie en 30 jours au ministère concerné, qui lui a un autre 30 jours pour essayer pour apporter des correctifs. Les types de plaintes qu'on peut faire, ça inclut l'absence de service en français ou même l'absence d'offre active de service en français. Par exemple, quelqu'un qui va passer son test théorique pour son permis de conduire, puis on lui offre pas de faire le test en français, bien, il pourrait déposer une plainte.
Bien, c'est intéressant tout ça. Merci beaucoup, Julien Gaillouette, qui est rédacteur en chef, donc je l'appelle de Franco-Presse.
Merci, bonne semaine.
De janvier, vie parallèle un peu trop serrée, le pied pesant juste assez vite, j'ai rapidement embarqué, s'enivrer à toute vitesse, accélérer notre ivresse. T'as pris ta place, ton nom dessus, comme si t'avais réservé, si ça s'effaçait sans regret, au moins j'aurais essayé. Je peux pas me projeter dans l'avenir, mais chaque fois je me sens fébrile. J'aurais pas peur si tu me dis où ça s'en va. J'ai pas envie d'aller au ralenti. Au moins j'ai pas pris mes jambes à mon cou. Les pieds pesants, j'ai pris la route loin d'un amour épuisé. Petite naïve persuadée, je croyais que t'allais essayer.
Plus fort, plus fort, plus fort.
J'ai pas.
Léonie Gray, sa chanson « Pris mes jambes à mon cou ».
On est presque rendu là parce que c'est la fin de l'émission qui s'en vient. On va pas prendre nos jambes à notre cou, hein, parce qu'on n'a pas à s'enfuir. On est très heureux d'avoir été là avec vous aujourd'hui. Juste un petit rappel de la météo, parce que c'est important, là, il fait très chaud, on annonce des grosses chaleurs dans l'est du pays. On ne peut pas parler de canicule, là. La définition d'une canicule, c'est 3 journées à plus de 30 degrés, mais c'est quand même chaud et humide aujourd'hui. Prévoyez, surtout si vous devez faire des efforts et déménager, parce que c'est vraiment ça qui se passe au Québec ces jours-ci, en fait aujourd'hui. Les températures peuvent aller jusqu'à 35 degrés. Et l'humidex, ça, c'est le ressenti avec l'humidité, tout ça, c'est 45. Risque d'orage violent en fin d'après-midi. Ça, c'est partout dans l'est du pays, et c'est surtout vrai au Québec, en Ontario. C'est un petit peu moins chaud, mais quand même chaud et humide dans les provinces atlantiques. Ça reste chaud aussi dans les provinces de l'ouest avec moins d'humidité. Et donc, avec aussi des indices UV qui peuvent aller jusqu'à 8. Alors, il faut mettre de la crème, sinon, ben, c'est dangereux. Merci à Mathieu Tessier et à la régie aujourd'hui. Merci aussi à Hélène Denis qui m'a aidé à la recherche. Je m'appelle Denis Martin Chabot. On est de retour demain, même heure, même poste.